On va continuer l'exercice précédent en vérifiant par un petit calcul si effectivement les valeurs qu'on avait trouvées du diagramme du moment étaient correctes ou ceux de l'effort tranchant étaient corrects. Donc par exemple, on peut se poser la question de savoir si le diagramme du moment qu'on avait dessiné en un point de calcul, par exemple au point B, était effectivement une valeur qu'on peut calculer par une autre procédure. Donc la procédure en question consiste à introduire au point B où on veut connaître les diagrammes du moment une rotule fictive et les moments inconnus en question, que je vais donc appeler MB, afin d'utiliser les principes des travaux virtuels pour calculer la valeur de MB. L'objet ainsi obtenu, en ayant introduit ici la rotule fictive, n'est plus une structure isostatique, mais un mécanisme avec un degré de liberté. En fait, le fait d'avoir introduit un degré de liberté dans une structure isostatique a automatiquement généré un mécanisme avec un degré de liberté. Les mouvements virtuels de la structure tenant compte de ce mécanisme peuvent être très facilement tracés en suivant les règles habituelles de définition des centres de rotation pour les différentes parties de la structure. Et une fois ces diagrammes de mouvements virtuels tracés, on pourra tout de suite se rendre compte si la valeur qu'on avait calculée était correcte et on pourra procéder par ailleurs à d'autres calculs. On va donc tout de suite identifier les différents centres de rotation. Alors on constate qu'on a affaire avec 1, 2, 3 et 4 poutres dans ce mécanisme. La poutre numéro 1, pour la même raison que tout à l'heure, elle est immobile, elle n'a pas de mouvement possible. Je vais répéter les raisonnements. Le centre de rotation de la poutre numéro 1 doit à la fois se trouver coïncider avec la rotule A et passer par la droite verticale identifiée par l'appui B. Évidemment, les deux conditions cinématiques sont incompatibles. Et donc, on peut être sûr qu'aucun mouvement ne se produira pour la poutre numéro 1. Pour ce qui est de la poutre numéro 2, nous savons que son centre de rotation relative avec la poutre numéro 1 se trouve sous la rotule. Et donc ici, nous pouvons identifier le centre de rotation absolu de la poutre numéro 2. J'ai transformé donc ce centre de rotation relative en un centre absolu pour la raison que la poutre numéro 1 étant fixe, ce mouvement relatif entre 2 et le corps fixe est en fait un mouvement absolu. Ensuite, je sais qu'en correspondance de la rotule E, se trouvera le centre de rotation relative entre les corps 2 et les corps 3. Je sais que le mouvement du corps 3 se fera avec un centre de rotation absolu qui se trouve sur l'axe mené par l'appui C. Je sais que le centre de rotation relative entre les corps 3 et 4 coïncide avec la rotule G, que le centre de rotation absolu du corps numéro 4 se trouve sous la droite verticale menée par D. Or, pour que le mouvement soit possible, d'après le théorème de Kennedy, il faut que le centre de rotation soit 3 à 3 aligné, et donc notamment les centres C2, C2, 3 et C3 doivent être alignés, ce qui implique que le centre C3 se trouve exactement au point C, et pour un raisonnement analogue, le centre C4 se trouve exactement au point D. Une fois que nous avons identifié les différents centres de rotation, il est possible de dessiner les diagrammes des mouvements virtuels de la structure. Notamment, on va dessiner les traçations verticales, c'est le sol qui nous intéresse et qui est d'ailleurs le sol qu'on a dégagé en introduisant la rotule en question. Et donc, on peut projeter le centre C2 ici, projeter le centre C3 ici et le centre C4 ici et puis tracer les mouvements à partir par exemple d'une rotation arbitraire de la poutre numéro 2, on va l'appeler alpha chapeau, ceci est donc la poutre numéro 2 déplacée, on trouvera sur l'intersection avec la projection du centre C2-3 les centres C2-3 prime, c'est-à-dire le centre déplacé. Par continuité, on peut tracer les mouvements de la poutre numéro 3, projeter les centres C3-4 et trouver les mouvements de la poutre numéro 4. Donc ceci représente les translations verticales de la poutre 4, ceci représente les translations verticales de la poutre 3, et comme on avait annoncé, il n'y a pas de mouvement pour la poutre numéro 1. Si je calcule le travail de tous les efforts en jeu, le travail virtuel de tous les efforts en jeu, je verrai que le moment MB qui agit sur la poutre numéro 1 ne fait aucun travail du fait que la poutre numéro 1 ne se déplace pas. Le moment MB qui agit sur la poutre numéro 2 et qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre fait un travail positif par rapport à l'angle alpha. Et donc, on a un travail MB fois alpha chapeau qui est donc donné par ce moment-là. Il n'y a rien d'autre qui travaille sur la structure à part la force F qui va faire un travail positif parce que son point d'application avance dans la direction indiquée par la flèche. Donc F fait un travail positif. Le travail en question est donné par cette longueur des chapeaux multipliée par F. La longueur des chapeaux, par construction ici, est égale à alpha chapeau fois L. Je vous rappelle qu'on a appelé L cette distance et que tous les angles en jeu sont les angles égaux parce que toutes les distances sont égales. Ce travail doit être égal à zéro, quelle que soit la valeur que je prends pour alpha chapeau, pardon, j'ai oublié le L ici, ce qui me donne par conséquent MB égale moins FL. C'est bien ce qu'on avait dit dans la solution précédente de l'exercice, et donc on a prouvé par une autre méthode que cette solution était correcte. Ce qui est intéressant dans la méthode qui est là, c'est qu'elle nous permet de connaître la valeur du moment MB lorsque la force, plutôt que se trouver au bout de la console comme dans le cas présent, se trouve ailleurs. Donc afin de regarder ceci, je vais mettre ici un chiffre 1, c'est la force F1, celle par rapport à laquelle nous avons fait ces calculs. Et puis je peux imaginer d'avoir une autre force qui agit sur la structure, par exemple une force F2 que je peux placer n'importe où, par exemple je peux la placer sous la rotule G. Alors je peux écrire le travail virtuel de toutes les forces en jeu dans cette nouvelle configuration et j'aurai donc le même travail pour ce qui concerne le moment MB et le travail des forces extérieures. Maintenant ce n'est pas le travail de la force F1 mais c'est celui de la force F2. Je constate que la force F2 recule et donc elle a un travail négatif et que le mouvement qui fait donc vers le haut le point d'application de la force F2, je peux l'appeler D2 avec un chapeau, il vaut L alpha. Ceci devant être égal à 0, quel que soit alpha, j'obtiens la valeur de MB dans ce deuxième cas de charge, qui est égal à F2 fois L. Ainsi de suite, quelle que soit la position de la force, et quelle que soit l'intensité de la force, et même si éventuellement j'ai plusieurs forces en jeu, les diagrammes des déplacements virtuels que j'ai tracés permettent de connaître la valeur du moment fléchissant au point B, quel que soit le chargement appliqué. C'est pour cela qu'on appelle ces diagrammes la ligne d'influence de la force verticale sur le moment MB. Quelle que soit la force verticale appliquée à n'importe quel point de la poutre, je trouverai son effet sur le moment fléchissant au point B.